Demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Et demain matin, penseras-tu à moi?
Louis-Jean Cormier, ce soir, l'amour est dans tes yeux.
Et ça donne bien parce que notre invité m'a dit que j'aime cette chanson. Bonjour, Éric Jean.
Bonjour.
Éric Jean, qui est un homme de théâtre, qui vient à notre micro pour parler de la pièce « Ma vie rouge Kubrick ». C'est d'abord un roman de Simon Roy, le regretté Simon Roy, qui a été emporté par un cancer du cerveau il y a maintenant quoi, 2 ans?
Oui, exactement.
En 2022. Et puis, je ne sais pas si ça vient d'où l'idée d'adapter le roman de Simon Roy à la scène, parce que, bon, c'est vous qui l'adaptez et c'est vous qui mettez en scène cette pièce. Éric Jean, c'est venu comment l'idée?
Bien, en fait, je suis tombé sur le roman. Le titre m'a intrigué.
Oui, c'est vrai. Hein?
Parce que j'aime quand même le cinéma de Stanley Kubrick. Puis le titre m'a intrigué, je l'ai lu et c'était un coup de cœur instantané.
Ah oui?
Et après, j'ai communiqué avec Simon, on ne se connaissait pas. Et je lui ai proposé qu'on prenne un café, qu'on se parle un peu de son roman.
C'est en quelle année, là?
Ça, c'est en... son roman est paru, je pense, en 2014, si je ne me trompe
oui,
pas.
Oui, ça fait 10 ans déjà.
Oui, c'est ça, ouais. 2013-2014. Puis ça, c'est en 2016.
OK.
Donc, on s'est rencontrés et là, je lui ai dit, ben j'ai l'impression qu'il y a un potentiel théâtral avec ton roman. Puis il m'a dit, c'est drôle, il dit, moi... Mon désir premier, c'était de l'écrire en théâtre.
Ah oui, il voulait faire une pièce de théâtre.
Oui, mais il dit, je me sentais pas capable d'écrire du théâtre. C'était un prof de littérature, mm-hmm. puis il était plus proche de la littérature que du théâtre. Puis il me dit, mais il dit, donc je suis complètement séduit par l'idée qu'un homme de théâtre s'empare de mon roman pour essayer d'en faire une pièce de théâtre.
Un grand compliment que vous lui faisiez, finalement.
Oui, en tout cas, il l'a pris comme ça.
Oui. Ma vie rouge Kubrick, le titre est intriguant. Kubrick pour Stanley Kubrick, oui, ouais. Vous l'avez déjà évoqué. Mais ça raconte quoi exactement?
En fait, Simon était fasciné par le film The Shining. Et il l'a vu plus de 42 fois, comme il l'a dit. Oui, il l'a vu plusieurs fois. Il était fasciné par ce film-là. Et au début, il a écrit un peu un essai sur le film, ses réflexions sur le film, ce qu'il avait remarqué, tout ça. Puis il parlait du génie de Stanley Kubrick. Et il a envoyé ça à un éditeur, donc chez Boréal, mm-hmm. aux éditions Boréal. Et c'est Robert Lévesque qui l'a rencontré.
Le critique?
Oui.
Ah oui.
Qui est directeur littéraire chez Boréal. Et lui, il l'a rencontré et lui a dit, ben c'est super intéressant ton analyse, mais moi, j'ai envie de savoir c'est quoi ton hôtel Overlook à toi. Parce que je pressens qu'il y a quelque chose de personnel.
Ton hôtel Overlook à toi.
Ouais, parce que dans le film, l'histoire, dans le film de Shining, ça se passe dans l'hôtel Overlook.
Et, c'est dans le Maine, hein? Est-ce que c'était dans le Maine?
C'est dans ce coin-là, ouais. Mais je ne me souviens plus exactement.
Mathieu, voulais faire une petite recherche,
au
là?
Au Colorado. Colorado.
Colorado?
Ouais, Colorado.
OK.
Oui, c'est ça. C'est
je me souviens, là, c'était spectaculaire.
Ouais, comme, les montagnes,
ça, ouais.
Oui.
Il y avait un labyrinthe aussi.
Oui, exactement, un labyrinthe végétal. Et là, donc...
il voulait qu'il personnalise là, sa vision.
Il se disait, j'ai l'impression que tu portes quelque chose de personnel qui serait intéressant de raconter en faisant des liens, en continuant de faire des liens, ben, en faisant des liens, en fait, avec le film. Et c'est là que Simon est retourné en écriture et il a plongé dans son histoire personnelle, dans sa généalogie qu'il dit macabre. Donc, des traumatismes liés à ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents. Et tout à coup, dans le roman, il tisse des liens. Donc, il pose 2 questions. Jusqu'à quel point une œuvre artistique, qu'elle soit cinématographique mm-hmm. ou littéraire ou théâtrale, peut nous influencer, peut nous transformer? C'est la première question qu'il pose. Et la deuxième, c'est est-ce que le fait de porter une généalogie macabre ou abîmée, si on peut dire ça comme ça, est-ce que ça fait en sorte que je n'ai pas le choix de perpétuer?
Ouais.
Est-ce que je vis avec les traumatismes
de
mes
ancêtres? Je suis pris dans ce cercle-là, oui. Là, vicieux.
Comment je fais pour l'arrêter, ce cercle-là? Est-ce qu'il y a moyen de l'arrêter? Donc, c'est les 2 sujets principaux abordés dans le roman. C'est très bon. C'est vraiment un bon roman.
Bien, vous nous donnez vraiment envie de lire le roman. Donnez-nous envie maintenant de voir la pièce. Ouais. Qui joue dans cette pièce?
Il y a 2 acteurs, donc Michael Gouin.
C'est dans l'Oregon, le Timberline.
Ah, c'est dans l'Oregon. Ouais, ouais. Ah, OK, bon.
Mais sur la scène, ça se passe où et c'est avec qui?
Ouais, sur scène, ben, donc, on joue à la salle Fred Barry du Théâtre Denis Pelletier.
Non, mais le lieu...
L'histoire se passe à la fois dans l'hôtel, à la fois dans... Parfois dans l'Anneau d'Hier, donc dans le coin de Joliette, parce que sa mère habitait à Joliette, à Montréal aussi. Donc dans
ce
coin-ci.
La mère de Simon Roy.
La mère de Simon Roy, exactement. Les deux acteurs sont Michael Gouin et Marc-Antoine Sinibaldi. Donc,
c'est une pièce à deux personnages.
Oui, ben, en fait, c'est le récit d'un homme, mais moi, j'ai eu envie de mettre de l'avant parce que Simon parle beaucoup de la notion de miroir. Dans la littérature fantastique, le thème du double, du miroir, est un thème vraiment important. Et dans le film de Kubrick aussi, il y a beaucoup de scènes miroirs, puis il y a même des miroirs dans l'hôtel. Il y a deux jumelles et tout ça. Donc, on parle beaucoup de ça. Et moi, je me disais, ben, je pense que ça devrait se refléter aussi dans la mise en scène. Fait que Michael Gouin interprète, si on peut dire, le narrateur principal, et Marc-Antoine Sinibaldi incarne un peu une facette, c'est-à-dire son double, son revers.
Le double du narrateur?
Exactement. Okay. Puis il y a un petit côté de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Donc, le bon et le méchant, la part sombre, la part plus lumineuse. Et,
un peu comme Jack Nicholson, le personnage de Jack Nicholson. Dans...
Ben, qui est possédé par un autre personnage, des hommes qui ont déjà habité dans cet hôtel-là, les Grady. C'est ça. Ça fait que Marc-Antoine joue un peu le double, mais en même temps, Marc-Antoine aussi suggère des fois, on est vraiment dans l'évocation, la mère suggère un tueur en série. Donc, il incarne d'autres personnages, d'autres figures importantes du récit.
Est-ce que ça a été un défi de mise en scène?
Oui, c'est pas mon plus grand défi de mise en scène, j'en ai eu des plus difficiles, mais c'est sûr que quand on part d'une œuvre littéraire pour l'amener à la scène, c'est toujours un défi comment on en fait du théâtre, parce que c'est sûr que dans le roman, il y a plus de détails, il y a plus d'informations, l'auteur nous entraîne où il veut, il nous entraîne dans plein lieu, dans plein d'espace-temps.
Faut pas que ça devienne du théâtre radiophonique jusqu'à un
certain
point.
Oui, c'est ça, faut pas qu'on ait l'impression d'être trop devant une œuvre littéraire, il faut être devant une œuvre théâtrale. Donc, pour moi, le défi, ça a été de rendre ça plutôt actif et qu'on ne soit pas seulement dans le récit, mais que ce soit un récit en mouvement, en action.
Et comment vous faites ça?
Bien, on a créé une sorte de chorégraphie, c'est pas de la danse, mais une sorte de chorégraphie dans l'espace avec plusieurs déplacements. Donc, les acteurs racontent, évidemment, avec leur voix, mais le corps, des fois, dit l'opposé de ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, il y a des jeux de labyrinthe aussi dans l'espace, sans que ce soit trop souligné là, au crayon feutre, mais il y a quand même des déplacements importants dans l'espace qui donnent l'impression qu'on est peut-être coincé, les spectateurs comme les personnages, dans un labyrinthe de pensée et de réflexion.
Ah oui. Mais il faut, j'imagine, être soucieux du public. Il ne faut pas le larguer.
Ben non, pas du tout.
Non.
Ah non, puis c'est une histoire qu'on suit qui est très, très bien racontée et qui est... Je dirais pas si complexe non plus.
Et Éric Jean, en tout cas, j'ai lu dans les notes là, que vous disiez que Ma vie rouge Kubrick propose une vraie rencontre entre la littérature, le théâtre et le cinéma.
Ouais.
Alors, c'est une proposition aussi dont on va être témoin si on se déplace à la salle Fred Barry?
Absolument, parce que, comme on le disait, on part d'un roman, donc littérature, cinéma, parce qu'on parle du film The Shining de Stanley Kubrick, il y a même des photos, quelques images du film qui ponctuent le spectacle, et puis théâtre. Bien évidemment, on est au théâtre devant des acteurs, mais je dirais qu'il y a, comme je disais, on flirte même aussi avec la danse et parfois même avec la photographie. Donc, c'est vraiment une proposition... pluridisciplinaire.
Et j'imagine que Simon Roy n'a pas eu la chance d'assister ni à la lecture, et puis évidemment, il ne sera pas au théâtre puisqu'il n'est plus, malheureusement. Mais question, hypothétique, pensez-vous qu'il serait heureux du résultat?
Absolument, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu une bourse en 2018 pour faire un laboratoire de recherche, de création sur le roman. Et j'avais fait deux sorties de laboratoire, donc deux présentations devant quelques invités, dont Simon. Donc, Simon a déjà vu le début de ma recherche et il était plus qu'enchanté.
Ah oui?
Et quelques mois avant son décès, je lui ai demandé l'autorisation de poursuivre Puis il m'a dit, Rick, je te fais entièrement confiance. Tu en fais ce que tu veux. Tu as ma totale confiance. Il dit, mon seul regret, c'est de ne pouvoir être là, parce qu'il savait déjà qu'il y avait déjà sa date, la date de son, de, où il allait recevoir l'aide médicale à mourir. Mais ses enfants et sa conjointe,
Marianne Marquis,
sont venus voir la mise en lecture qu'on a fait dans le cadre du Festival international de la littérature l'an dernier, il y a un an. Et ils vont être présents aussi cette semaine. Ils vont venir voir une représentation.
Ah oui.
Donc, je suis très heureux, très content. Ils étaient très émus quand ils ont vu ça.
Ça doit.
Oui, vraiment. Ben, c'est sûr que c'est normal. C'est leur père. C'est bouleversant pour eux.
Oui.
Leur père ou leur conjoint.
C'est une tragédie aussi. Là.
Il
est parti trop vite. Il y avait encore des œuvres à nous
offrir.
Ah,
ben oui. Puis il a publié 4 formidables livres, oui. Simon. Donc...
Ouais. Et vous, votre rapport à Stanley Kubrick, quel est-il? Est-ce que vous avez un film fétiche? Est-ce que c'est Shining comme...
Non, moi, Shining, je l'ai vu quand j'étais adolescent.
Pas 42 fois?
Non.
Simon, ouais,
deux, trois fois, c'est assez.
Ouais.
Pour moi, en tout cas, c'est quand même un film troublant.
Ouais.
Je l'ai vu, j'avais aimé ça, mais j'avais pas été marqué. Là, Simon me l'a fait revoir d'une autre manière, avec d'autres yeux, un autre regard. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand on voit le spectacle ou on lit le roman, on a envie de revoir le film pour comprendre exactement ce dont il nous parle. Puis pour répondre à votre question, je dirais que ça a été le premier film que j'ai vu, mais le film qui m'a le plus troublé, c'est Orange Mécanique. Orange Mécanique, j'avais trouvé ça vraiment troublant. Mais mon préféré, c'est...
Avec la 9e de Beethoven.
Ah oui, on s'en souvient.
Les
hein?
coups de canne.
Ah, mon Dieu, oui. Puis,
Film à regarder de ce temps-ci avec l'Halloween, dans cet esprit halloweenesque, malgré que c'est vrai que c'est assez...
Mais il faut se préparer, c'est quand même... Mais j'avais beaucoup aimé Eyes Wide Shut aussi, son dernier film
avec
Nicole Kidman.
Oui, l'ancien couple.
Oui,
Tom Cruise.
Oui, exactement.
Oui. Il en a fait des bons, finalement.
Ah, bah oui. Oui, 2 millions d'ici de l'espace... Il en a fait plusieurs, bon. Ouais.
Une grande œuvre.
Ouais.
Et puis, on dit que la réplique, je ne sais pas si vous la reprenez, cette réplique énigmatique
Tu aimes les glaces canards. Ah ben oui, elle est au début du spectacle et elle conclut aussi le spectacle. Oh oui, c'est mythique, cette phrase-là. C'est le déclencheur dans le film pour le petit garçon. C'est un des déclencheurs importants. Puis ça a été le déclencheur pour Simon. Parce qu'il a vu ce film-là par hasard, il avait 10 ou 11 ans. Mm-hmm. Puis quand il a entendu cette phrase-là, parce que ce qu'il faut, je ne sais pas si vous en rappelez, mais dans le film, le personnage de Dick Halloran fait visiter une chambre froide à la mère du petit garçon, Danny.
Chez Duval, hein,
ouais,
qui
c'est
l'incarnait. Ça.
Il lui fait visiter et lui explique ce qu'il y a dans la chambre froide. Puis en même temps, sa voix se dédouble. C'est comme s'il y avait deux voix en même temps qui sortaient de lui.
J'ai déjà peur. Je me souviens d'avoir eu peur dans le temps.
Puis la deuxième voix, s'adresse au petit garçon. Et c'est là que la deuxième voix, tout à coup, il y a un dédoublement et il lui dit « Tu aimes les glaces, canard? » Fait que ça traumatise le petit garçon, mais ça a traumatisé aussi Simon, mais ça lui a donné envie d'écrire là-dessus plus tard.
Parce que vous parliez de son héritage macabre, est-ce qu'il vous a confié un peu ce qu'il avait vécu?
On le comprend vite dans le roman et dans le spectacle aussi. La mère de Simon était suicidaire, en fait. Elle a fait une tentative de suicide quand il était adolescent et une autre quand il était adulte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Simon aussi, je dirais que la frontière est floue entre la réalité et la fiction. Donc, il nous entraîne dans un traumatisme que sa mère aurait vécu avec sa propre sœur jumelle, liée à leurs parents, à leur mère et leur père. Mais pour avoir discuté avec Simon de son vivant, c'est pas si net que c'est exactement comme ça que c'est arrivé.
Mm-hmm.
Donc, c'est un auteur, il part du réel, mais il transforme aussi, il flirte avec la fiction. Mais je dirais que quand on s'est rencontrés, on s'est vus quand même à quelques reprises, j'ai compris qu'il y avait dans son histoire familiale des choses très difficiles, des choses violentes.
Alors, ma vie rouge... Brick est présenté, je le rappelle, à la salle Fred Barry, une salle intime hein, qui contient combien de personnes environ?
130 places. Puis là, je dirais qu'au total, là, je crois que sur toutes les représentations, il reste à peu près 150 billets.
Il faut faire vite, si on en veut.
En fait, c'était complet. On a ajouté 2 supplémentaires. Fait que là, il reste des billets seulement pour les 2 supplémentaires.
du 29 octobre au 16 novembre.
Oui.
Et puis, on rappelle que... Oui, Mathieu, vous voulez parler?
En fait, je voulais juste rapporter une précision. C'est à la suite d'un court séjour au Stanley Hotel qui, lui, se trouve au Colorado, que Stephen King a été inspiré par cet hôtel-là pour créer l'hôtel dans le roman.
Okay.
Mais l'hôtel qu'on voit dans le film se trouve en Oregon.
Merci. C'est pour ça que j'avais Colorado en tête.
Oui, oui.
Merci beaucoup.
Tout s'explique. Alors, du 29 octobre au 16 novembre, il y aura une rencontre aussi avec les artistes le jeudi 7 novembre.
Exact.
Vous serez là?
Oui.
Oui. Bien, je vous dis merde. C'est la générale ce soir?
Oui, générale avec des amis, des invités ce soir et un photographe. Donc, et demain, la grande première.
Merci, Éric-Jean, d'être venu dans nos studios.
Merci à vous.
À la prochaine.
Oui.